source d'information le matin. Voici Catherine Godreau.
Que la Mauricie se lève.
Au 106.9 Mauricie.
À 6h48. Alors, je vous donnais les grandes lignes de ce dossier hier, cette nouvelle qui est sortie. Donc, la personne qui se cache derrière la page Facebook dit son nom, qui avait été créée en juillet 2020, donc juillet l'année dernière, dans la foulée du mouvement Moi aussi, pour dénoncer de présumés agresseurs. Elle devra dévoiler son identité. C'est ce qu'a conclu la Cour supérieure du Québec. Elle devrait également dévoiler le nom des dénonciateurs à Jean-François Marquis. Ça, c'est un Montréalais qui poursuit pour diffamation, dit son nom, et à qui il réclame 50 000 $ en dommages moraux et punitifs pour avoir inclus son nom dans cette liste d'abuseurs présumés alors qu'il se dit innocent. On fait le point là-dessus avec Maître Charles Bécoté, avocat criminaliste. Maître Côté, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Dites-moi, première question, le fait d'être une présumée victime, donc ce n'est pas suffisant pour demander l'anonymat, est-ce que c'est ça?
Ben, disons que le principe peut s'appliquer en droit criminel où la personne, la présumée victime, son nom ne sera pas divulgué en public. Mais son identité, par contre, elle est connue de l'accusé. Alors, dans ce cas-ci, en matière civile, c'est que on voulait garder même l'anonymat face à la personne qu'on a entre guillemets, dénoncé via la page en question. Alors, il était là le problème.
OK, parce que, bon, ce que la Cour a statué dans les propos, ça disait ceci, considérant que les défendresses entendent spécifiquement démontrer la véracité des reproches formulés par la ou les victimes alléguées de M. Marquis, il est évident que ce dernier doit savoir qui lui reproche quel geste. Alors, tout est là.
Ben là, ça, c'est l'autre... C'est ça, mais là, ça, c'est à l'autre étape. Là, ces gens-là ont rapporté des faits, ont accepté des faits comme étant pris pour avérés, et là, les ont publiés. Alors, moi, je poursuis, puis c'est pas la page dit son nom, c'est les personnes qui contrôlaient cette page-là, les deux dames en question, dont une est connue. Alors, il a fait forcer l'identification de la deuxième, dans un premier temps, et par la suite, lui, il veut valider c'est quoi les informations que vous avez eues et de qui, de quelle façon vous avez obtenu ça. Parce que moi, je prétends ne pas vous avoir commis les gestes qu'on me reproche. Okay, alors, vous savez, en matière de diffamation, on n'est pas obligé, même si on dit la vérité, dans certains cas, on pourrait être accusé et condamné en diffamation. Alors, tout le débat joue là-dessus.
D'accord, parce que bon, il y en a une des deux administratrices, elle avait décidé de dévoiler son identité, elle avait accordé une entrevue au Devoir, donc elle s'appelle Delphine Bergeron. Bon, là, on parle de la deuxième qui refusait de le faire. Mais donc, d'autre côté, si on poursuit la conversation, bon, évidemment, il y a tout l'aspect aussi des faits. Si les deux femmes n'ont pas pris les moyens pour s'assurer que les allégations, tu sais, étaient basées sur des faits, juridiquement, elles sont un peu dans le trouble, non?
Ben oui, effectivement, et c'est ça qui était à la base toute la problématique de cette formule de dénonciation-là, c'est qu'il n'y avait pas de réelles enquêtes pour s'assurer du bien fondé, du bon... À l'effet que cette information-là était véridique, avec une base factuelle solide. Parce que, vous savez, être un goujat, être quelqu'un qui a un comportement... sans être criminel, mais qui est déplacé, ou un comportement des années 90 maintenu, ben, vous savez, c'est pas nécessairement criminel, mais effectivement, il y a des personnes qui ont été blessées par de tels comportements, et c'est là qu'on réalise à quel point il y a un vacuum qui existe dans une zone tampon où des gestes qui ne seraient pas à caractère criminel, mais qui devrait être dénoncé à la personne qui l'a commis et peut-être créer un environnement, une zone qui permettrait un dialogue. La conscientisation de la personne qui a commis l'impair, les impairs en question qu'on dénonce, et aussi pour la victime, celle qui les a subis, de pouvoir s'exprimer et de dire « Écoute, c'était pas correct, ça. »
Oui.
Alors, je pense que la justice vise à peut-être combler ce vide-là, ben, du moins, on l'espère, nous, dans le domaine.
Oui, parce que, Maître Côté, les tribunaux ne sont pas très friands de dénonciations comme ça sur les réseaux sociaux. Évidemment, les tribunaux vont toujours prôner bon la démarche juridique, c'est de porter plainte, d'aller rencontrer les policiers. Donc, c'est toute la démarche, évidemment, c'est la meilleure façon de faire encore aujourd'hui, là.
Oui, ben pour les crimes, effectivement, à caractère criminel. Mais il y a cette zone-là où il n'y a pas... c'est pas vraiment un crime. Ou encore, d'un autre côté, il y a peut-être place à un doute raisonnable face aux gestes qui sont commis. On l'a vu, là, il y a eu deux décisions qui ont eu beaucoup d'impact ici au Québec. Puis vous savez, c'est ça le problème en matière de crimes en teneur sexuelle. C'est que pour un accusé, c'est tout ou rien. C'est la stigmatisation totale avec l'enregistrement au registre des délinquants sexuels pour une longue période. C'est la publicité des débats, c'est la condamnation et tous les impacts qu'il peut y avoir. Alors que dans certains cas, peut-être qu'un dialogue franc entre les personnes pour dire « Hey, ça fonctionne pas ça ». Il faut changer ce comportement-là et d'offrir une zone où le délinquant pourrait s'amender et justement... faire une remise en question de certains comportements problématiques sans dire que en bout de ligne, ceux-ci doivent être réprimés avec l'arme nucléaire.
OK. Donc, Maître Côté, dites-moi, bon, avec cette décision de la Cour supérieure, est-ce que ça veut dire que, bon, autant pour cette cause-là que pour d'autres qui suivront, est-ce que les médias sociaux pourraient être condamnés à payer des dommages en intérêts moraux et matériels?
Ben là, pas prête à embarquer sur les médias sociaux comme tels, les plateformes numériques. Je pense que les gens, personnellement, par contre, ont toujours été responsables de leurs paroles et de leurs écrits. Alors, je pense que c'est un rappel qu'on ne peut pas publier n'importe quoi sous le couvert de l'anonymat en disant, ben, on va y donner une leçon, puis il n'y a pas de séquelles ou il n'y a pas de danger pour nous. Je pense que c'est un rappel que votre identité pourra être réclamée et vous pourrez peut-être être appelé à justifier vos écrits et prouver que ceux-ci étaient véridiques et, dans le contexte, étaient appropriés. Alors ça, ça va peut-être refroidir des ardeurs de gens, de justiciers ou justicières qui cherchent à dénoncer, mais sans en subir les conséquences. Parce que tout le monde a le droit de se défendre.
Tout à fait, exactement. Alors,
il est là la base, le problème, la décision de la Cour supérieure vient corriger ces lacunes-là.
Maître Côté, merci d'avoir été avec nous ce matin.
Ça m'a fait plaisir. Bonne journée.
Merci. Au revoir, Maître Charles B. Côté, avocat criminaliste. Alors voilà donc ce dossier, cette administratrice de la page Facebook dit son nom qui devra révéler son identité.